Eh bien, merci beaucoup de m'avoir invité, ainsi que Françoise de Coninck. Nous allons faire des conférences complémentaires, puisque l'une comme l'autre traiteront de les supports en ligne de la culture 18e. Ma conférence traitera principalement de l'architecture et Françoise traitera de l'architecture des salles de concert ou salles d'église pour les sermons, tous dans lesquels on a besoin de son. Donc, je vous présente notre site Georgian Cities, qui a été publié il y a 10 jours, donc, et tout récent, que vous trouvez à l'adresse qui est là, et que si vous avez des smartphones, vous pouvez suivre sur vos smartphones en petit format. Bien, donc, vous voyez l'objectif de ce CD-ROM. Il est de montrer que les fonctionnalités interactives hypermédia peuvent être utilisées pour faire apparaître dans l'architecture, puisque c'est le thème de votre séminaire, l'ordre ou le désordre, et en différents types de visions multiples. Donc, je vais d'abord vous parler de l'ordre. Vous voyez que la page d'accueil, c'est un éventail qui s'ouvre. Donc, qui laisse supposer que les idées peuvent se déployer comme un éventail. Donc, c'est le symbole de l'hypermédia qui développe les idées. À partir de là, vous pourrez aller dans différents lieux bas, selon Edimbourg et d'autres villes moins importantes. Donc, vous voyez comment j'ai organisé ma présentation. C'est-à-dire il y a l'ordre et le désordre, puisque c'est ce que vous m'avez demandé de traiter. Et dans les trois colonnes, pour la première colonne, vous avez un certain nombre de thèmes, c'est-à-dire il peut y avoir l'ordre dans la présentation de l'espace, dans la superposition des époques historiques, dans des modalités de représentation, et ainsi de suite. Vous retrouverez ces mêmes catégories. Et dans la deuxième colonne, vous voyez le type d'effet interactif qui correspondent à chacune de ces présentations. Par exemple, pour manifester l'urbanisme et les angles de vue, et on peut utiliser le plan annoté et l'image mappée. Et dans la troisième, eh bien, vous avez un exemple et un lien vers une page d'exemple. Donc, le premier exemple, ça sera la ville d'Édimbourg, ville, comme vous savez, au XVIIIe siècle, partie nouvelle de la ville, c'est-à-dire construite suivant un plan géométrique. L'image même de l'ordre architectural, et donc c'est bien un point de départ pour le thème que vous souhaitez traiter. Donc, l'ordre architectural existe à différentes échelles pour la vue d'ensemble, avec ce plan damier qui est le rêve des architectes depuis le plan de Millet dans l'Antiquité. Vous voyez qu'il souligne l'écart entre les rues principales dans le sens de la longueur, c'est-à-dire qui relie les deux places, et d'autre part, on aperçoit quelques rues transversales. Donc, les textes que vous pouvez lire au-dessous soulignent ces axes qui sont les trois axes principaux. Toutefois, si vous regardez un certain nombre des icônes, ça si nous ne raisonnons plus en termes de texte, mais en termes d'image et en termes d'icônes, vous voyez que les icônes soulignent plutôt les axes mineurs et qui renvoient à des pages de photos, qui montrent, en particulier pour la troisième, celle-ci, qui montre comment cette nouvelle ville géométrique se situe par rapport à la ville médiévale sur son château. Donc, nous voyons que les transversaux soulignent, les icônes soulignent la place de la ville dans l'environnement. C'est une deuxième interprétation par rapport à l'interprétation beaucoup plus ordonnée qui était celle que l'on voit en regardant le plan et le texte. Deuxième exemple, les rapports entre les images et les légendes. Vous pouvez dans l'architecture, et cette fois-ci à une autre échelle, celle du bâtiment, avoir ce qu'on appelle la grammaire des styles, c'est-à-dire une façon de lire l'architecture comme si c'était une phrase avec des mots correspondant à chaque élément. Et là, nous avons une page de notre site dans la section de l'architecture à Bath avec différentes parties de l'architecture soulignées en bleu. Et quand vous passez sur ces parties, eh bien, vous voyez apparaître les noms, click on the blue bracket, les termes d'architecture doivent apparaître. Apparemment, ils ne passent que sur Chrome. Non, c'est pas grave. Bien, donc, suivant les navigateurs, donc, vous devriez voir apparaître en mots les ici pediment pour dire le fronton et ainsi de suite. Il s'agit bien sûr d'apprendre aux étudiants le vocabulaire de l'architecture. Donc, on peut imprimer le vocabulaire de l'architecture sur des images. Mais vous pouvez aussi surimposer deux images, une image sur une autre. C'est-à-dire non pas texte sur image, mais image sur image. Et ici, cela peut être pour montrer les profondeurs historiques. Donc, si nous maintenant nous passons à Londres et nous allons dans les Beckford Estates, c'est-à-dire la partie de Londres qui est près du British Museum, et qui a été développé par la famille Russell au XVIIIe siècle, c'est-à-dire qui possédait et qui possède encore, à vrai dire, tout le terrain. Donc, vous pouvez aller dans Londres, architecture. Vous allez Squares and Townhouses. Voilà. Et ici, vous avez le plan de Londres et de tous les nouveaux développements. Et si vous allez dans la région de Bedford, vous voyez, en fait, donc en plus des photos, bien sûr, vous avez un plan avec le nom des rues, donc c'est la géographie. Mais si vous descendez un petit peu plus bas, eh bien, vous voyez se superposer l'histoire. Parce que vous voyez qu'en fait, les membres de la famille Russell ou des familles alliées ont chacun donné leur nom à une rue. Autrement dit, vous voyez en pratique que l'arbre généalogique d'une famille depuis le XVIe siècle jusqu'au XIXe siècle se superpose sur la géographie. Donc l'histoire se superpose sur la topographie. Vous pouvez bien sûr maintenant passer aux représentations, c'est-à-dire non pas ce qu'est la ville, mais comment elle a été représentée. Et donc, nous pouvons voir que les nouvelles constructions londoniennes ont pu servir d'exemple pour ceux qui voulaient pratiquer la perspective. Donc, vous avez un chapitre sur la perspective, vous avez plusieurs exemples et vous avez ici Hanover Square. Hanover Square étant l'un de ces squares, comme on dit maintenant en français, relativement géométrique et harmonieux. Et vous pouvez voir que les dessinateurs les utilisaient comme prétexte à faire un exercice de perspective. Par exemple, vous voyez ici se surimposer les lignes de projection, et vous pouvez même le poursuivre jusqu'au vanishing point, c'est-à-dire point de fuite en français. Vous voyez que la perspective est parfaitement classique et régulière, puisque toutes les horizontales convergent sur le même point, comme ça doit être en perspective correcte depuis la Renaissance. Donc, nous sommes bien ici dans le chapitre de l'ordre. Vous pouvez vous servir évidemment de ce site pour créer des exercices pour vos étudiants. Dans l'un de mes cours, je m'en suis servi. Je vais vous montrer seulement un exemple. Et on peut pratiquer des jeux de rôle. Donc, pour voir si les étudiants ont bien acquis toutes les notions d'architecture que vous essayez de leur expliquer, eh bien, vous pouvez créer, j'ai utilisé tout simplement une plateforme que vous connaissez probablement, Moodle, je ne sais pas quelle est celle, la plateforme qui est utilisée à Aix, c'est celle que vous utilisez, voilà. Alors, vous avez un exercice assez difficile, mais très apprécié des étudiants, qui est de créer ce qu'on appelle une leçon, c'est-à-dire un parcours pédagogique. Alors là, j'en ai fait un disant, imaginez que vous êtes un architecte et il faut répondre aux questions comme il faut. Alors, donc, vous aurez d'abord à faire des dessins. Et là, on vous pose une question. On vous donne deux gravures représentant Édimbourg. Et on vous dit que si vous êtes architecte, vous aurez à faire ces deux types de dessins. L'un des deux sera à usage professionnel, l'autre sera pour montrer au public. Alors, selon vous, est-ce que c'est A ou B qui est celui à usage professionnel ? A, bon, alors, vous pouvez constater, bien sûr, que les réponses apparaissent à chaque fois en ordre aléatoire pour qu'on ne puisse pas se souvenir que c'est toujours la première qu'il faut cocher qui est la bonne ou quelque chose comme ça. Voyons si vous avez bien visé. On dit A, envoyer. Oui, vous avez un point sur un, c'est bon. Mais bien sûr, après, vous voyez, vous avez des explications, on vous donne d'autres détails, et à partir de là, on vous envoie réviser, si vous n'avez pas tout compris, sur les pages du site. Maintenant, toujours dans les jeux de rôle, vous pouvez utiliser des animations à phase successive. Comment a-t-on construit le Royal Crescent ? Comment a-t-on réussi à faire l'ellipse que vous voyez ici, puisque c'est une demi-ellipse ? Eh bien, vous voyez que vous pouvez faire une animation où on vous montre comment les arcs de cercle qui se suivent ont été construits. Et c'est une série de triangles équilatéraux. Je rends hommage au Museum of the Building of Bath, étant donné que c'est là que j'ai vu le schéma que nous y avons reproduit. Donc on utilise un théodolite, qui est un instrument de visée, et on vise dans les différentes parties, et on finit par avoir ce type d'axe. Donc vous voyez qu'on peut très bien se servir de ces outils pour faire apparaître l'ordre dans l'architecture. Mais bien sûr, il y a aussi des difficultés dans l'urbanisme et dans l'architecture, et quelquefois les architectes ont à traiter du désordre. En particulier, et le plus évident, c'est qu'ils font presque toujours des plans d'architecture à plat, mais que le terrain est souvent, en fait, en partie montagneux, ce qui n'entre pas dans les préceptes de l'architecture classique. Alors comment va-t-on faire pour adapter l'un et l'autre ? Il faut d'abord être conscient de la difficulté. Édimbourg, si vous connaissez Édimbourg, vous vous rendez bien compte que c'est l'endroit idéal pour essayer de trouver comment négocier entre les dimensions horizontales et la dimension verticale. Alors vous voyez ici, vous avez un petit calcul, c'est-à-dire, voici un projet d'ingénieur pour un pont, et vous voyez que ce pont est en pente. Alors, si vous voulez calculer la dénivellation, eh bien, supposons que vous ayez descendu de 4 pieds, par exemple, dans le sens vertical, de combien aurez-vous avancé ? Eh bien, vous voyez que le calcul se fait automatiquement, donc vous aurez avancé de 64 pieds. Bien. Autrement dit, il faut tenir compte à la fois de la verticale et de l'horizontale. Autre difficulté, si on a des rues en pente, comment fait-on pour avoir des corniches à hauteur identique ? L'architecture classique suppose qu'il y a des corniches horizontales. Comment fait-on dans une rue en pente ? Eh bien, vous voyez la solution choisi pour Gay Street à Bath, vous voyez que les corniches restent horizontales, mais chaque maison à une corniche avec les proportions classiques, mais bien sûr qui n'est pas à la même hauteur que la maison suivante. Donc on préfère respecter les proportions classiques pour chaque maison, au prix évidemment d'une dénivellation entre les différentes maisons. Nous pouvons évidemment regarder quelques autres cas. Tout le monde n'a pas choisi la même solution. Voilà. Vous pouvez voir par ici de l'architecture industrielle. Voilà. C'est-à-dire, c'est un village ouvrier dans une des vallées de la Derwent. Et là, en fait, c'est une rue très en pente. Les fenêtres descendent les unes par rapport aux autres et le toit lui-même est en pente. Comme ce n'est pas de l'architecture classique, eh bien, on peut briser la règle des toits qui doivent rester horizontaux. Si nous passons maintenant à ces superpositions de l'histoire, nous avions vu tout à l'heure la généalogie des Bedford qui se projetait. Eh bien, nous pouvons voir la question de l'adaptation de l'architecture classique aux usages domestiques. Parce qu'il faut bien se rendre compte que les bâtiments classiques, les bâtiments de l'Antiquité, étaient des bâtiments publics et qu'ils ont été adaptés à l'architecture domestique du XVIIIe siècle. Comment peut-on l'adapter? Quelquefois, il y a des contradictions et des formes de désordre que les architectes doivent trouver le moyen de cerner. Eh bien, à Bath, plus au nord que le Royal Crescent, et donc un peu plus tardif, nous trouvons d'autres crescents. Vous voyez, voilà le Crescent, et voilà d'autres crescents par ici, plus au nord, en partie dans la campagne. Et vous allez voir le problème. En fait, ces bâtiments à apparence de palais horizontal sont en réalité des maisons juxtaposées, c'est-à-dire des demeures particulières juxtaposées, comme dans une rue, il y a un certain nombre d'immeubles juxtaposés. Autrement dit, l'architecture classique consistait toujours d'un nombre impair de fenêtres parce qu'il y avait un nombre pair de colonnes. Bien, par exemple, le Parthénon a 8 colonnes, ce qui veut dire un nombre impair entre colonnements. Ce qui veut dire qu'il y avait toujours un vide au milieu. Or, quand vous avez une série de maisons, eh bien, le corps central est divisé exactement en deux, puisqu'il y a une famille qui habite le côté gauche, une famille qui habite le côté droit. Bon, comment s'en sortir? Alors, certains ont fait une hérésie architecturale qui est de mettre une colonne au milieu. D'autres ont été un peu plus habiles, c'est-à-dire, vous voyez qu'ici, il y a une niche qui est en fait une niche aveugle, mais qui, pour le regard habituel à l'architecture classique, donne tout de même l'impression qu'il y a un vide au centre, qui est ce que le regard entraîné à l'architecture classique attend. Et vous voyez ici, le plus savant, c'est Somerset Place. Vous voyez que vous avez la niche qui fait le vide du milieu qu'on attend, mais en même temps, vous voyez les effets de vide et de plein, parce que les vides ici sont soulignés par les deux vides du fronton brisé. Vous voyez que nous avons souligné ces effets de vide et de plein en soulignant les pleins en rouge et les vides en bleu. Donc là, vous voyez en fait la double lecture qui apparaît suivant que vous regardez le rouge ou le bleu. Donc, nous voyons ici les tensions entre l'architecture domestique et les exigences classiques. Si nous passons maintenant aux représentations, eh bien, nous allons voir exactement le contraire de Hanover Square. Dans Hanover Square, vous vous rappelez que nous avions vu une perspective parfaitement cohérente et classique. Maintenant, si nous regardons ce qu'a fait Hogarth pour représenter le désordre social, là, donc, nous allons dans Londres. Voilà. Dans Londres, vous avez toute une section sur les représentations de Londres, Artists London, The Painter's View of London, dans lequel vous trouverez plusieurs chapitres. Bien sûr, je ne vous les montre pas tous, mais le plus détaillé étant sur la perspective. Et là, vous voyez Bear Street et Gin Lane. Les voilà. Et ici, vous avez un commentaire, c'est-à-dire Bear Street est en perspective classique, comme vous voyez, il y a une convergence parfaite des lignes. Mais maintenant, si vous regardez Gin Lane, eh bien, vous allez voir qu'en réalité, il n'y a pas une bonne convergence, puisque les lignes d'un côté ne convergent pas avec les lignes de l'autre côté. Et donc, il a fait une distorsion que vous pouvez voir ici. Voilà. Vous voyez que si vous prolongez les lignes du côté gauche, des maisons du côté gauche, eh bien, vous allez les voir apparaître, elles sont ici et elles vous mènent à un point de convergence ici, tandis que si vous prolongez les lignes de ce côté-ci, elles vous mènent ici. Autrement dit, vous avez deux lignes d'horizon au lieu d'une, vous avez une ligne d'horizon ici, une ligne d'horizon à cette hauteur-là. Alors qu'en perspective classique, il doit y avoir une seule ligne d'horizon. Bien, donc Hogarth, ce n'est certainement pas une erreur, il était très expert en perspective et a fait des gravures pour se moquer de ceux qui maîtrisaient mal cette science, donc a délibérément fait une perspective fausse pour manifester le désordre causé par le gin. Nous pouvons voir aussi quelques problèmes d'adaptation causés tout simplement par le climat. Alors, un motif connu dans l'architecture classique était ce qu'on appelle la serlienne. Voilà. Voilà. Là, vous voyez à Derby une maison construite par un architecte pour lui-même. Et là, vous la voyez dans la rue. Hein? Bien. Là, vous avez quelques diagrammes. Maintenant, si nous regardons ici, nous voyons que la serlienne, c'est-à-dire un motif inspiré de Palladio, dans lequel vous avez trois ouvertures, l'une avec arche centrale, et deux autres avec des fenêtres rectangulaires de chaque côté. Bien, donc cette entrée ressemble à une serlienne, mais ce n'est pas tout à fait une serlienne, parce que dans la serlienne, les ouvertures rectangulaires de part et d'autre s'arrêtent au niveau de la base du tympan, donc devraient s'arrêter ici. Donc vous devriez avoir cet arc et vous devriez avoir cette fenêtre qui va d'ici jusque-là. Bien, étant donné que Peckford vivait dans un climat évidemment moins lumineux que celui de Vicence, et il a pensé utile de prolonger sa serlienne pour faire entrer plus de lumière, parce qu'il voulait montrer évidemment les décorations de son hall. Donc nous voyons un bon nombre d'adaptations. Maintenant, au-delà de l'ordre et du désordre, eh bien, vous pouvez avoir des effets d'incertitude ou d'obliquité. Reprenons les mêmes catégories, l'espace. Eh bien, vous pouvez avoir non pas des catégories toutes nettes, mais vous pouvez avoir des effets de variation progressive. Et nous allons regarder quelques effets d'éclairage. Voilà. Alors, là, vous avez une présentation de Birmingham, et c'est à Birmingham qu'a été pour la première fois pratiqué l'éclairage au gaz. Et alors, vous avez ici un interactif qui est, je dois également rendre hommage, est inspiré d'une expérience que l'on voit à la Royal Institution à Londres. On se pose une question. Une lampe à gaz, donc tout à fait nouvelle, fin du XVIIIe siècle, est équivalente à combien de bougies ? Nous mesurons encore la lumière en bougies. Bien, eh bien, l'expérience consiste à mettre devant une lampe à gaz un écran qui serait suffisant pour dissimuler la lumière d'une bougie. Bon, ce n'est pas suffisant pour dissimuler la lampe à gaz. Alors, on en met deux, et on voit si elle est dissimulée, puis trois, et ainsi de suite, et on voit à partir de quand elle est dissimulée, ça dira à combien de bougies elle est équivalente. Alors, on va essayer one candle. Bon, vous voyez que l'on voit encore très clair avec ce voile qui serait suffisant pour cacher une bougie. C'est pas suffisant. Deux, c'est un peu plus sombre, mais c'est pas encore suffisant. Trois, c'est pas encore suffisant. Quatre, c'est devenu complètement noir. Autrement dit, une lampe à gaz dans les usines et plus tard dans la rue équivalait à quatre bougies, avait la même puissance que quatre bougies. Maintenant, pour ce qui est de la présence de l'histoire dans le présent, eh bien, vous pouvez avoir des effets d'incertitude, de superposition qui sont au-delà de l'ordre et du désordre, qui sont plutôt de la suggestion. Donc, Londres se présentait comme la Nouvelle Venise. Voilà, donc nous retournons dans Londres, dans Artist London, The Painter's View of London, voilà. Et là, nous aurons Oblique Views and Shadows. Et là, vous avez en particulier l'inspiration de Canaletto sur les ombres et les lumières. Donc, vous voyez ici la vue de Londres qui est en fait comme une lagune vénitienne représentée par Canaletto. Et ici, vous avez une animation dans laquelle vous voyez le même motif, c'est-à-dire un dôme au-dessus de l'eau, qui peut être réintégré dans un contexte qui peut être soit Venise, soit Londres. Et au fur et à mesure que le siècle progresse, on aime de plus en plus les effets incertains. Donc dans les représentations, au lieu de la géométrie qui cadre clairement les bâtiments, on aime mieux les effets panoramiques. À partir de la fin du 18e et au début du 19e, on s'est mis à apprécier les panoramas. Donc, retournons toujours à Londres et dans Artist London. Voilà. La dernière section, c'est voilà, le panorama. C'est-à-dire, en fait, qui vous permet de voir plus que vous ne pouvez voir d'un seul coup d'œil. Vous êtes obligé de tourner autour de vous-même. Et là, vous avez une animation où vous pouvez voir ici l'angle de vue qui tourne, c'est-à-dire en supposant que vous tourniez sur vous-même, vous voyez sur le plan de Londres ce que vous apercevez, et en même temps, vous voyez, vous pouvez faire précédent, suivant, en même temps, vous voyez que le cadre rouge qui indique dans quelle direction vous regardez tourne, et vous voyez ici votre angle de vision et ce que vous voyez dans votre angle de vision. Les panoramas eux-mêmes ont disparu, c'est-à-dire c'était des grandes salles qui étaient peintes tout autour d'un paysage, mais Girton avait fait un projet, des aquarelles de projet, et ces aquarelles ont survécu. Donc vous voyez que vous pouvez voir tourner le panorama de Londres et voir à chaque instant dans quel ensemble se situe ce que vous voyez de façon nette. Maintenant, pour si nous repassons du côté de l'architecte et si nous regardons de nouveau les jeux de rôle, eh bien, nous pouvons voir pas seulement les effets de perspective directe comme nous avions dans Hanover Square, mais nous pouvons voir que Pulteney Bridge à Bath a été pris par Turner comme un exemple de quelque chose de plus savant, qui est la perception oblique. Voilà. Donc, ici, vous avez Pulteney Bridge, ici. Vous avez les dessins pour Pulteney Bridge. Vous voyez que Pulteney Bridge était fait ici par d'une Venetian Window, qu'il était inspiré donc des faits palladiens. Mais si vous allez regarder dans la section Topics Perspective, Architecture, Styles, voilà, et ensuite vous pouvez le voir, Topics Architecture Urban Design, vous avez une section sur Perspective Methods, dans lesquelles vous pouvez voir la perspective la plus simple. Vous pouvez pratiquer que serait mettre ce bâtiment, Somerset House, en perspective de plus en plus accentuée. Vous le voyez qui va jusqu'au deuxième dessin. Et là, vous avez Pulteney Bridge et vous avez l'animation qui a été faite par Turner pour le représenter en perspective oblique. Comment fait-on si on part de ce dessin et on voudrait savoir à quoi il ressemble quand il est mis en perspective oblique? Bien, eh bien, voilà ce à quoi Turner est arrivé. Là, c'est la question que l'on pose. Et là, vous avez la construction géométrique. Et vous allez voir le dessin de Turner qui apparaît. C'était les dessins qu'il faisait pour ses cours quand il était professeur de perspective à la Royal Academy. Donc, les conclusions, les représentations spatiales interactives peuvent conduire à simuler des problèmes d'architecture ou bien d'utilisation des espaces géographiques à partir d'une structuration verbale, mais aussi en utilisant l'image comme commentaire sur l'image. D'autre part, au-delà de l'ordre et du désordre, ces effets peuvent se modéliser l'illimité, la variation et aussi les interrogations. Et ceci, c'est parce que autour des volumes architecturaux, ces processus reposent sur la prise en compte de la lumière, de l'atmosphère et du contexte. Je vous remercie. Merci.
Merci beaucoup Marie-Madeleine.